Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
On a de la chance ce matin, c'est l'un des très grands chefs de notre monde musical qui est avec nous en direct, il rigole déjà, directeur musical de l'Orchestre Philharmonique Tchèque de Prague depuis 2018 et qui s'apprête à faire des grandes retrouvailles dans quelques jours. Ce sera les 22, 23, 24 septembre avec une formation qu'il a dirigée pendant près d'une décennie, depuis 1989 à 1998, l'Orchestre de Paris, mais qu'il n'avait jamais dirigé depuis. Je suis Semyon Bychkov. Bonjour maestro.
Bonjour.
La dernière fois que vous êtes venu dans ce studio, c'était il y a 2 ans. Depuis, la pandémie est arrivée, le monde a changé. Le monde musical a-t-il changé aussi, selon vous?
Mais bien sûr.
Comment?
Le monde musical n'existe pas ailleurs. On vit la vie de notre société, la vie de notre époque. Et forcément, cette pandémie, ça a amené une espèce de crise existentielle. Ce n'est pas uniquement la santé qui est en cause, mais aussi le moral des gens, le moral de société. Les gens qui se trouvent dans une situation précaire économiquement ou émotionnellement. Les autres qui sont bien soutenus ont retrouvé l'espace et pouvaient se reconnecter avec la nature et réfléchir comment on veut vivre. Est-ce que c'est vraiment la vie qu'on a envie de mener d'avant ou quelque chose pourrait se modifier? Donc c'est assez complexe et les musiciens naturellement font partie de tout cela.
Et vous?
Et moi
aussi.
Vous
avez été remis en cause dans votre mode de vie, dans les voyages.
Disons que j'ai un peu honte de l'admettre parce que je suis tout à fait conscient de la souffrance de tellement de personnes. Pour moi, personnellement, c'était un cadeau de Dieu de retrouver cet espace. Disons que pendant un an de sans concert, si vous voulez, sans voyage, je me retrouvais avec mon épouse Marielle Labec et on a calculé quelque part que pendant cette année, on a été ensemble plus que depuis qu'on vit ensemble et ça date déjà plus de 30 ans. Donc c'est quand même un grand cadeau. Et en plus d'avoir cet espace d'étudier, de lire, de réfléchir, de marcher dans les bois, parce qu'on habite à la Côte Basque. Et ça, c'est quelque chose qui n'était jamais oublié, mais qu'on n'avait pas vraiment beaucoup de possibilités de vivre. Donc pour nous, c'était plutôt un cadeau. Mais une fois de plus, je dois dire que je suis tout à fait conscient que ce n'est pas donné à tout le monde. Et là, naturellement, il y a beaucoup de soucis.
Semyon Bychkov, ces derniers jours à Paris, l'Orchestre Philharmonique de Berlin s'est produit, l'Orchestre du Festival de Bayreuth aussi, c'est très rare, des concerts très attendus mais qui n'étaient pas totalement complets alors qu'ils l'auraient été certainement il y a 2-3 ans. Est-ce que vous craignez que le public ait perdu l'habitude d'aller au concert?
Non, je ne crois pas pour l'instant que c'est le cas. Et je vous dis pourquoi, parce que déjà depuis un certain moment, on a repris l'habitude de donner les concerts avec le public. Et je vois, par exemple, il y a quelques jours, j'ai dirigé au BBC Proms à Londres et ça se passe à Royal Albert Hall, qui a été rempli quand même. Et c'est un espace énorme. Je pense que les gens ont faim d'entendre musique en live, pas uniquement en streaming ou par les médias. Et ça se voit à quel point ils ont besoin de ce qu'on peut les offrir. C'est justement au moment de crise existentielle que les gens ont nécessité très profonde pour des choses spirituelles, de la nature spirituelle. Quand on est bien aisé, peut-être ce n'est pas aussi vital, mais dès que on est en danger, à ce moment-là, on est obligé de tourner à l'art, à philosophie, pour certains c'est la religion, quelque chose qui nous sauve, qui nous donne de l'espoir. Et donc je pense que dès que c'est possible, et maintenant ça devient possible d'aller assister au concert, les gens sont là.
Semyon Bychkov est notre invité jusqu'à 9h sur France Musique. Thank you. Le final des biches de Francis Poulenc, l'orchestre de Paris dirigé par Semyon Bichkov. Vous datez cet enregistrement que vous n'avez pas entendu depuis très longtemps, Semyon Bichkov, de 1995, c'est ça?
Quelque chose de, oui, comme ça. Ouais.
La musique française, vous la jouez un peu avec votre orchestre philharmonique tchèque de Prague?
Ah oui, bien sûr. Par exemple, il y a 2 ans, je crois, oui, c'était avant la pandémie, on a programmé la 2e symphonie de Dutilleux, le double, qu'ils n'ont jamais joué. Et c'était une découverte pour tout le monde, pour l'orchestre, autant que pour le public. On est obligé de sortir de nos frontières, parce que le répertoire tchèque, très vaste et magnifique, et naturellement, la tradition de l'orchestre est basée sur ce répertoire, comme ça doit être, comme c'est le cas pour tout le monde, pour les Allemands, avec musique allemande, etc. Mais ça ne suffit pas. Et donc, par exemple, musique d'Henri Dutilleux représente quelque chose qui est une révélation pour ceux qui ne le connaissent pas, comme c'était le cas aussi avec Symphonie de Luciano Berio, qui n'a jamais été joué par l'orchestre. Ouais.
Et vous avez été aussi nommé pour ça, pour ouvrir le répertoire
absolument,
et les frontières.
Absolument. Vous savez, je pense qu'on est là pour détruire les frontières, pas pour les créer.
L'orchestre philharmonique tchèque de Prague, on va en parler dans un instant, mais ici vous dirigez l'orchestre de Paris, vous en avez été le directeur musical jusqu'en 1999, si je ne m'abuse. Vous revoici donc au bout de 22 ans, une longue, très longue période sans les diriger. Pourquoi une si longue attente?
Vous savez, naturellement, il y a plusieurs raisons, mais chaque fois, par exemple, quand on me pose une question, et pourquoi vous aimez telle ou telle œuvre, autant pourquoi vous ne l'avez jamais dirigée? J'ai jamais la réponse. Je dis peut-être parce que j'ai fait d'autres choses et on ne peut pas tout faire. De toute façon, je suis curieux maintenant de revenir après une telle période d'absence, simplement parce que j'aimerais bien voir ce qui est devenu de l'Orchestre de Paris. 9 ans de ma vie, c'est quand même une période très importante. C'est une période assez longue. Quand on essaie vraiment de donner le meilleur de soi-même, comme tout est toujours en train d'évoluer dans la vie, je suis très curieux de voir comment cet orchestre est évalué. Et naturellement, il n'y a peut-être pas beaucoup des artistes dans l'orchestre qui sont été là pendant la période que je l'ai dirigé. Donc, c'est la nouvelle génération, ça m'intéresse beaucoup.
Semyon Bichkov, vous avez une parole libre, on va pas le cacher, ça c'était pas forcément très très bien fini en 1998, enfin il y avait eu des tensions, en tout cas c'est ce que rapportait la presse.
Mais la presse rapporte ce qui est la vérité, j'étais contesté, mais dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas contesté? Est-ce que ça existe?
Vous serez donc... en septembre, et vous avez choisi Malheur, on va parler de Malheur tout à l'heure. Vous attendez, vous, à une émotion particulière? Qu'est-ce qui reste entre un orchestre et un chef quand ce dernier part? Est-ce qu'il y a un lien indéfectible, même quand presque tous les musiciens ne sont plus là 22 ans après?
Vous savez, la musique telle que, par exemple, la 2e symphonie de Mahler, elle reste pour toujours. C'est nous qui change au cours de notre vie et avec les générations qui se succèdent. Et par exemple, la première fois que j'ai dirigé cette symphonie de Mahler, la 2e, ça date déjà il y a 40 ans. Et je l'ai pas abandonné depuis. Je retourne régulièrement avec cette symphonie. La musique est la même, sauf que moi, je change. J'évolue. Et c'est le cas avec tous les interprètes. Les questions que la symphonie pose, ils sont éternelles. Pourquoi on est là? Quelle est notre mission? Est-ce qu'on vit pour quelque chose? Est-ce qu'on continue à vivre, même quand on part pour une autre forme d'existence? Et je pense que c'est la question que chaque personne s'adresse au cours de la vie assez régulièrement. Et ce qui est très important, c'est qu'il y a certaines œuvres où toutes les personnes qui participent à l'interprétation sont d'accord. Et je crois que la musique de Mahler, particulièrement la deuxième symphonie, est un cas quand chacun joue pour son vie, pour sa vie. Et ça amène une espèce d'ambiance toujours. C'est déjà le défi de l'exprimer. Et ensuite, c'est une émotion que chacun pouvait s'identifier avec. Vous voyez? Donc, c'est l'œuvre qui reste toujours vitale pour moi personnellement et je pense que pour beaucoup, beaucoup de mes collègues.
Les 22, 23 et 24 septembre à la Philharmonie de Paris, Semyon Bichkov retrouve l'Orchestre de Paris. Ce sera dans la deuxième symphonie de Gustav Mahler. Voici Mahler, mais c'est la troisième.
Thank you.
Un extrait de la troisième symphonie de Gustav Mahler, Lustig im Tempo, l'avant-dernière partie, l'orchestre symphonique de la radio de Cologne, le chœur de la cathédrale, le chœur d'enfants de la cathédrale de Cologne, dirigé par notre invité ce matin, Semyon Bychkov. C'est la deuxième symphonie de Gustav Mahler que vous donnerez les 22, 23, 24 septembre à la Philharmonie de Paris avec l'orchestre de Paris. Semyon Bychkov, cet amour, l'un des amours de votre vie pour Gustav Mahler, vous le faites remonter à quand?
Vous savez, c'est justement le mouvement final de cette troisième symphonie.
Donc juste après ce qu'on vient d'entendre.
Exactement, qui vient tout de suite après. C'était les premiers sons de musique de Mahler que j'ai entendu en tant que pratiquement un enfant. J'avais 11 ou 12 ans peut-être, pas plus, à l'époque où... quand j'ai habité à Leningrad, Saint-Pétersbourg, aujourd'hui, j'ai étudié dans l'école de Glinka. L'école a été connectée à la salle de concert, s'appelle Capella Glinka. L'Orchestre Philharmonique de Leningrad faisait des répétitions, parfois des concerts là-bas aussi. Et donc, entre les classes, il y avait toujours une pause de 10 minutes. Et chaque fois qu'il y avait une pause, j'ai couru dans la salle pour écouter ce qui se passait. Et ce jour, j'arrive, et c'est un silence. Et tout d'un coup, j'entends quelque chose de tellement magique que je suis pas retourné aux classes après. J'étais dans un autre monde, et je savais pas qu'est-ce que c'était, qui l'a composé. Et ce jour-là, j'étais dans les rues, et il y a pas mal des affiches qui annoncent les concerts ou les spectacles, etc. Et je vois une affiche qui annonce troisième symphonie de Gustav Mahler par Philharmonique de Leningrad. Là, j'ai découvert le nom et j'ai découvert d'où venaient ces sons. Et alors, c'était à ce moment-là que le rêve d'interpréter sa musique et de diriger la troisième, et éventuellement quand j'ai appris d'autres, a été né.
L'envie de diriger est née de Gustav Mahler?
Non, ça j'ai déjà su bien avant. Mais pour Gustav Mahler, c'était vraiment le rêve de diriger sa musique après avoir entendu le final de la troisième symphonie.
Mais alors Semyon Bychkov, ce qui est étonnant, c'est que cette deuxième symphonie dont vous nous avez parlé tout à l'heure, que vous jouerez avec l'Orchestre de Paris, c'est-à-dire la première et la dernière œuvre que vous avez dirigée avec cet orchestre dans les années 90, qui est un peu le fil d'Ariane de votre vie, ben j'ai cherché, on ne trouve pas de disque, vous ne l'avez pas enregistré, elle vous intimide?
Non, on avait enregistré à Prague, ce n'est pas encore le disque qui est sorti, mais on est justement en train d'enregistrer le cycle de symphonie de Gustav Mahler. On avait déjà produit la deuxième et quatrième symphonie, et maintenant, dans les deux mois à venir, on va enregistrer la première, la cinquième, la neuvième, et continuer. J'espère que d'ici 4 ans, on va pouvoir terminer ce projet. Donc, on est vraiment au milieu d'enregistrer ce cycle. Donc, on vit avec cette musique, avec mes collègues à Prague. Ce qui est très intéressant, c'est un petit peu amusant, ce que on pense à Mahler comme un compositeur autrichien. Figurez-vous qu'elle était née en République tchèque. Donc ses racines sont là. Et la septième symphonie qu'il avait créée, c'était à Prague. Il l'a dirigée lui-même. Donc il y a des racines tchèques chez musique de Mahler qui sont très profondes et très importante. Et ce qui m'a réjoui beaucoup, il y a un an, Simon Rattle venait pour diriger l'orchestre et il a dit, c'est l'orchestre qui a le son absolument parfait pour la musique de Gustav Mahler. Et ça, ça m'a beaucoup touché parce que c'est la vérité.
Eh bien, ça donne envie de découvrir prochainement ces enregistrements Mahler avec l'Orchestre Philharmonique Tchèque de Prague, Semyon Bychkov. On va se quitter avec la précédente intégrale, c'est Tchaïkovski. Mais avant, juste d'un mot, d'autres retrouvailles, ce sera en mai avec l'Opéra de Paris, vous allez diriger Elektra, le lyrique. On a l'impression parfois que dans votre carrière, c'est un peu mis de côté ou vous n'avez pas le temps, c'est faute de temps?
Non, vous savez, pour moi, c'est pratiquement moitié-moitié. Sauf que pour faire un projet lyrique, tant que j'imagine doit être fait, ça exige beaucoup de temps. Donc la quantité ne correspond pas forcément à quantité de concerts symphoniques. Mais en ce qui concerne mon intérêt...
L'investissement,
c'est absolument moitié-moitié.
Electra, de Richard Strauss, en mai à Bastille. Mahler, la deuxième symphonie, les 22, 23 et 24 septembre à la Philharmonie de Paris. Merci beaucoup, Semyon Bichkov, d'être venu sur France Musique.
Merci à vous.
La valse de la sérénade pour cordes de Tchaïkovski, c'était l'orchestre philharmonique tchèque de Prague, dirigé par Semyon Bichkov.